Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonsoir à tous. Je vous propose que nous fassions une première lecture pour situer notre méditation ce soir dans le livre des Hébreux, si vous voulez bien. Alors, c'est à la fin de votre Bible, ou presque, et dans le chapitre 12, je voudrais simplement relever une petite phrase, voilà, qui va situer notre réflexion, le caractère même de notre méditation. Alors, je rappelle, Hébreux, chapitre 12, verset 15. C'est une exhortation qui nous est adressée à chacun, où il est dit ceci: « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Voilà, simplement pour situer notre réflexion, simplement, eh bien, nous sommes exhortés à ne pas nous priver de ce que Dieu veut nous donner. Alors, il faut d'abord discerner la présence de Dieu, ce que nos besoins, naturellement, et de ne pas passer à côté pour différentes raisons, soit parce que nous sommes négligents ou inattentifs, indifférents, et particulièrement dans ce que nous avons devant les yeux et ce que nous avons lu, que nous pouvons passer à côté de la bénédiction de Dieu ou de la grâce de Dieu, tout simplement en raison d'un état de cœur qui est qualifié tout simplement de racine d'amertume. Vous savez ce que c'est que l'amertume ? Des ressentiments, de l'aigreur que nous pouvons avoir dans notre cœur et qui peut être un obstacle majeur. Et ça fait partie justement de la nature humaine, hein, à différents niveaux naturellement, selon différentes personnalités, personnes. Et c'est vrai que lorsque on ne peut pas vivre heureux, lorsqu'il y a de l'aigreur et de l'amertume dans notre cœur, et ça peut nous priver finalement d'une bénédiction. On peut entendre l'évangile, on peut prier, on peut demander beaucoup de choses, croire en Dieu, mais si véritablement nous cultivons ou nous maintenons dans notre cœur ces dispositions, eh bien, c'est vrai que ça neutralise et ça paralyse notre foi et nous ne pouvons rien recevoir. Alors qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Que l'amertume, c'est véritablement quelque chose de particulièrement contagieux. Et puis, deuxième lecture, toute simple, qui viendra compléter, alors elle est aussi simple et aussi courte que la précédente, dans Philippiens, chapitre 2. Et il est dit au verset 14, alors c'est un tout petit verset, il est dit ceci: « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Alors, ce qui peut produire des hésitations justement pour recevoir la grâce de Dieu, c'est le manque de foi. Ou ne pas être finalement convaincu que ce que Dieu nous promet, eh bien c'est bon pour nous. Ça, ce sont les hésitations. Mais il y a également, eh bien, ce qui entretient l'amertume et l'aigreur dans notre cœur, c'est les murmures. Alors, le mot murmure, on va en reparler, parce que c'est lui qui va être l'objet de notre explication biblique ce soir. Il y a deux sortes de murmures. Il y a le bruit sourd que l'on entend. On murmure, comprenez ? On parle en sourdine, mais ça ne risque rien. Hein, à moins que c'est pour cacher des choses qui amènent peut-être des critiques et toutes sortes de choses. Alors, on appelle ça des messes basses, vous savez. Hein, voilà, ça c'est la première chose. Mais il y a également le murmure, et celui qui peut être vraiment très connu, c'est tout simplement le mécontentement. Voilà. Quand les gens murmurent, c'est qu'ils sont mécontents. C'est parce que finalement, ils ne trouvent pas leur compte et alors bien sûr, ils sont frustrés, ils sont malheureux et c'est souvent les autres qui sont les responsables. Alors on va voir justement, parce que nous allons découvrir maintenant, que nous pouvons être nous-mêmes la cause d'un manque de bénédiction ou d'une absence de bénédiction dans notre vie et que ce ne sont pas les autres. Hein, souvent on cherche un bouc émissaire, comme l'on dit, on cherche des responsables, mais c'est un enseignement et c'est important, et même si nous le plaçons dans un cadre ce soir d'évangélisation, je pense que si véritablement la question est abordée, c'est que quelquefois, eh bien, nous passons à côté de tout simplement de la grâce de Dieu. Alors voilà, ceci dit, maintenant j'aimerais que nous revenions, nous allons plutôt aller dans le livre des Nombres. Et là, il nous est parlé savamment de justement du sujet, et nous allons le voir, nous allons développer notre méditation et à travers eh bien plusieurs lectures successives que nous allons prendre au fur et à mesure. Et figurez-vous que dans le livre des Nombres, alors je vais vous donner la situation, ouvrez-le tout de suite et au chapitre 11, vous pouvez, mais je vais d'abord dire quelques mots. Livre des Nombres, chapitre 11, et dans ce fameux livre des Nombres que nous trouvons dans l'Ancien Testament, eh bien ce livre-là, qui est tout à fait particulier, nous décrit les sept murmures du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte dans le désert. Et vous allez voir qu'il y a des choses à retenir, parce que quand on sait que le peuple d'Israël était le peuple élu, donc le peuple béni de Dieu, où Dieu avait fait les plus belles et les plus grandes des promesses, parce que, eh bien, finalement, ils avaient fait tout simplement démonstration de foi et de confiance jusqu'à un certain moment, et nous nous apercevons que dans son cheminement, sortant de leur misère, de servitude et d'esclavage, ils ont commencé à marcher avec Dieu, et à un moment donné, ils se sont arrêtés, ils se sont privés de la grâce de Dieu. Pourquoi ? Parce que ils ont murmuré. Ils ont murmuré continuellement, en permanence, et à chaque fois que Dieu voulait les bénir, eh bien, il y avait toujours quelque chose qui aigrissait l'amertume dans leur cœur, et ils ne pouvaient pas voir la bénédiction. Leurs yeux étaient empêchés de considérer la grandeur, la puissance de Dieu qui leur était destinée, et à chaque fois, ils passaient à côté. Et je pense que c'est important de savoir que c'est aujourd'hui le jour de bénédiction, c'est là où Dieu nous donne son salut. Et ça serait quand même dommage, figurez-vous, de participer ce soir à cette réunion, d'entendre ce que nous allons entendre, ou tout simplement à chaque fois que vous venez dans un culte, dans une réunion d'études bibliques, ou comme ce soir, l'espace de l'Évangile, et que finalement nous entendions ça et que nous n'en faisions rien. Que nous puissions voir d'autres personnes autour de nous qui vont recevoir quelque chose et nous passer à côté. Et en raison de quoi ? Peut-être d'un problème qui nous intéresse en premier lieu parce que nous conservons dans notre cœur une certaine animosité de l'aigreur contre quelqu'un, je ne sais pas, contre une situation, même contre Dieu, hein, parce que vous allez le voir. Quelquefois nous essayons de trouver des coupables, eh bien sur la terre, parmi les hommes qui nous environnent, mais on s'aperçoit que le peuple d'Israël, eh bien lui aussi, avait aussi ses motifs de récriminer, mais il récriminait aussi contre Dieu. Dieu, tu ne fais pas assez vite, Dieu, tu ne bénis pas comme je voudrais, tu ne fais pas ce que je te demande, etc., etc. Et ça, ça crée quelquefois de l'amertume, de l'animosité et des murmures qui nous font murmurer, dire des choses qui ne sont pas justes et vraies. Et puis, eh bien, Dieu ne peut pas bénir dans cette situation, dans cette condition. Alors, j'aimerais justement préparer les choses. Peut-être que moi, si je dis ça, je ne sais pas, hein, je donne ce message parce que j'ai à cœur de le donner. Ce n'est certainement pas pour nous juger. Ce n'est pas pour nous condamner encore moins, mais c'est pour nous amener, eh bien, véritablement à prendre conscience que quelque part, il y a des obstacles qui ne sont pas seulement des obstacles de foi ou qui paralysent notre foi, mais des choses qui sont au fond de notre cœur où nous avons du mal à pardonner, où nous avons du mal à passer sur des choses où nous avons peut-être souffert, où nous avons vécu des choses difficiles, mais nous gardons une amertume. Et je crois que le Seigneur voudrait nous parler ce soir en disant, mais dépose ton fardeau, abandonne ton problème et tu vas voir que moi je suis capable de t'ouvrir la route. C'est vrai que une des raisons de l'aigreur et de l'amertume des hommes, c'est parce que nous avons souffert de d'autres hommes. Hein, on n'a pas été considéré, on a été méprisé, on a été piétiné, on a été quelquefois rejeté par manque d'amour ou toutes sortes de choses semblables. Et nous gardons au fond de notre cœur quelque chose qui n'est pas bon. Et tant que nous allons cultiver cette mauvaise herbe, eh bien, nous pourrons toujours entendre l'Évangile, nous pourrons prier, nous pourrons faire beaucoup de choses dans ce sens, dans le contexte spirituel, mais ça ne pénétrera pas parce que, et Dieu peut-être nous dit, voilà le problème. Ton problème ce soir, réfléchis, ton problème c'est parce que justement tu gardes quelque chose contre une situation, dans une situation, contre quelqu'un, peut-être qui t'a fait du mal, il avait certainement pas raison de te faire du mal, mais faut pas garder ça. Parce que moi, je veux que tu marches, je veux que tu t'épanouisses, je veux que tu te développes et que tu grandisses dans la foi. Et vous savez qu'une fois que cet obstacle, ce caillou, ce rocher, cette montagne a disparu de notre cœur, eh bien, les choses changent. Et c'est vrai qu'elles changent grandement. Et nous croyons que Dieu est là à travers sa parole pour nous parler. Donc le livre des Nombres nous parle justement de ce problème d'une manière tout à fait sensible et particulière, avec ses conséquences. Parce que on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu, zapper la grâce de Dieu, comme l'on dit, mais il y a des conséquences. C'est que finalement, nous n'avançons plus, nous ne pouvons pas être heureux, nous n'avons pas la paix en nous-mêmes, nous sommes quelquefois rongés par un feu intérieur qui produit la colère, l'irritation, toutes sortes de choses, et nous ne nous en sortons pas. Alors Dieu nous dit, moi je suis ton médecin, je suis celui qui va te guérir, mais écoute bien, parce que il y a peut-être quelque chose à faire et je ne veux pas que tu restes dans cette situation qui te rend malheureux ou malheureuse. Alors, nous allons définir en quoi consiste murmurer, le verbe murmurer. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être parler en sourdine comme ça, mais c'est véritablement également une autre signification que nous trouvons dans l'explication, dans le dictionnaire, veut dire tout simplement, qui démontre un état d'esprit. Voilà. Une façon de fonctionner, de penser, non pas en positif, mais en négatif. Et également, c'est un mal contagieux, nous allons le voir à travers les textes. C'est une fièvre qui enflamme la vie, comprenez ? Ça, c'est sûr, cette amertume, enflamme, qui exprime l'insatisfaction. Je ne suis pas content de mon sort. Je ne suis pas content de la vie qui est la mienne. Et il y a des gens qui vont traverser l'existence sans jamais avoir connu véritablement ce que ça pouvait être, la paix. Le repos intérieur, le repos dans notre pensée, la paix dans nos pensées, dans notre conscience, toujours en lutte, toujours en bagarre, toujours en affrontement ou en combat avec notre environnement. Ça se voit malheureusement dans notre monde, dans les familles, dans les entreprises, ça se voit partout, dans tous les niveaux de la société, de la vie sociale et dans tout ce que nous pouvons rencontrer. Donc, ça exprime l'insatisfaction, ça exprime le mécontentement de notre condition, en pensant que ça pourrait être mieux, que nous valons mieux que cela, mais que quelque part c'est nous qui barrons la route, c'est nous qui mettons des barrières, et où là nous avons besoin d'une guérison. Vous savez, lorsque nous lisons l'évangile, nous voyons combien de fois Jésus guérir les malades physiques, aveugles, boiteux, sourds, muets, etc., et puis d'autres maladies. Mais il y a des maux dans notre humanité qui ne se voient pas finalement, où il n'y a pas de pansement à mettre, où il n'y a pas de traitement particulier, parce que c'est une maladie qui touche notre cœur, qui touche notre âme, qui touche souvent le sentiment, notre affect, notre manière d'être, notre manière de vivre, et nous sommes coincés dans cela, et nous ne nous imaginons pas que nous sommes malades, et que nous avons besoin d'une guérison. Alors je voudrais quand même vous le dire, Jésus est mort sur la croix pour nous donner la guérison physique, lorsque nos corps sont souffrants, mais il est venu guérir nos âmes de certaines choses, du péché, de toutes sortes de ce qui pourrait l'affecter d'une manière ou d'une autre, le mensonge, la haine, enfin toutes sortes de choses. Ça, ce sont des maux qui nous privent de la grâce de Dieu, qui nous empêchent de recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, nous allons parler un petit peu des dangers ou des conséquences de maugré, parce qu'on peut toujours peut-être donner ces mots, murmurer, insatisfait, tout simplement le mécontentement, maugré. Vous savez, il y a des gens que, on le dit, ils se lèvent toujours du pied gauche. Alors je ne sais pas s'il y a une incidence avec les pieds, le matin de bonne heure, mais en tous les cas c'est une expression, elle vaut ce qu'elle vaut, ça va pas très loin. Mais c'est vrai, des gens qui sont toujours tendus, qui sont toujours sur la défensive, toujours dans l'agressivité, parce que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, Et ça, je crois que quand on est chrétien ou quand on veut aller un petit peu plus loin, si nous avons ce tempérament, ça peut arriver, on est comme on est naturellement, selon notre nature et notre caractère. Mais si on est comme ça, le Seigneur nous parle et il nous dit, tu ne vas pas rester comme ça. Il faut que tu, véritablement, il y ait quelque chose qui change et tu vas voir que ta vie va changer. Parce que un des fruits de la conversion, de la repentance, c'est de vivre une vie nouvelle, comprenez ? Voilà, on a connu des gens. On a connu des hommes et des femmes qui sont venus écouter l'évangile qui était impossible à vivre. Ah oui, quand on entend leur témoignage, quand on a entendu leur témoignage, ils ont dit, mais c'était des gens irascibles, on ne pouvait rien leur dire, susceptibles, avec toujours, eh bien là, toujours ce scrupule de toujours chercher les fautes chez les autres, hein, toujours à regarder ce qui ne va pas, soupçonneux par exemple. Ça, c'est des traits de caractère. Hein. Et on est malheureux, et on rend les autres malheureux aussi. Alors, on va voir un petit peu les conséquences de tout ça. Nous allons ouvrir ce livre du Livre des Nombres, voilà, et nous allons voir à partir du verset 11, et nous allons réfléchir aux leçons que l'on peut en tirer. Alors, le verset 11, on va lire les trois premiers versets de ce chapitre. Écoutez bien. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et il dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel, et le feu s'arrêta. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'était passé, c'est ce que nous avons souligné, la racine étant l'amertume dans le peuple d'Israël. Je fais un retour en arrière. Le peuple d'Israël était un peuple extrêmement malheureux, réduit à la servitude et à l'esclavage pendant des siècles en Égypte. Il avait été réduit à titre de bête de somme. Voilà, la vie d'un homme. Dans l'empire égyptien, l'empire d'un hébreu, par exemple, eh bien, ne comptait pas, hein. C'était quantité négligeable, et Dieu les avait sortis de leur misère, d'une manière étonnante, extraordinaire, formidable, hein, à renverser cet empire, hein, qui était certainement le plus fort et le plus grand, le plus prestigieux empire de l'époque. Et c'était la lutte contre, comme David contre Goliath, en quelque sorte. Dieu avait véritablement, eh bien, délivrer ce peuple. Et puis au bout d'un certain temps, ils avaient vu, ils avaient connu, ils avaient été émerveillés de voir ce que Dieu avait fait. Et au bout d'un certain temps, ils se sont mis à murmurer. Voilà. C'est terrible. Et c'est ce que nous retrouvons dans notre société aujourd'hui, parce que si nous voulons, un tant soit peu, nous comparer à d'autres pays, d'autres conditions sur la Terre, je peux vous dire que là, on pourrait peut-être considérer que finalement, eh bien, on vit en paix, on vit quand même avec des moyens. Et je pense que ça ramènerait peut-être un peu plus de tolérance et de calme et un climat peut-être autrement que celui que nous connaissons, que nous vivons. Alors, il nous est dit que le peuple murmura, et naturellement, eh bien, c'était le déplaisir de Dieu en quelque sorte. Parce que l'amertume, elle fait parler en mal, comprenez? Quand on est amer, on peut pas dire des paroles douces. On peut pas dire des paroles qui font du bien, qui édifient, qui construisent. C'est le contraire. Je pense que vous avez été confronté, vous aussi, avec des gens qui sont aigres, avec des gens qui sont remplis d'amertume. Et ça, c'est pas toujours agréable, parce qu'à chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, hein, on se brûle. Et c'est ce qui s'était passé. Pourtant, Dieu avait béni ce peuple, mais il n'était pas encore content. Il n'était pas content parce que, finalement, il y avait beaucoup de choses que nous allons découvrir d'ici à un moment ou un autre. Et vous avez vu que c'est grâce à la prière de Moïse que tout s'est apaisé. Un homme qui lui n'était pas amer, qui lui n'était pas rempli d'amertume, s'est tenu devant Dieu et nous a dit « Moïse, prie à l'Éternel » et le feu s'arrêta. Vous savez, une église, ça sert à quoi aussi? Une église, comme nous faisons nos réunions de prière, ça sert à prier pour nos frères et nos sœurs, pour nos amis qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore, qui ne connaissent rien de Jésus, qu'ils puissent passer par une expérience d'une transformation de vie. Et ça, c'est important. Vous avez remarqué, Moïse pria et le feu s'arrêta. Le feu intérieur, le feu de l'amertume, le feu du mécontentement, le feu de l'insatisfaction. C'est l'histoire de Jésus avec la Samaritaine, vous comprenez? Femme ô combien insatisfaite. Il ne nous est pas dit si elle murmurait, mais elle n'était pas insatisfaite. Elle n'était pas satisfaite de sa condition et de son état. Alors nous voyons que ça, c'est un premier point que nous trouvons. Toujours dans le chapitre 11, au verset 4, et nous allons un peu plus loin, verset 4 à 6, il nous est dit que le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, parce qu'il y avait eu toutes sortes de gens qui s'étaient greffés à la sortie d'Égypte, fut saisi de convoitise. Ah, voilà un mot qui est intéressant. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire « Qui nous donnera de la viande à manger ? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. » Vous avez de quoi faire le marché demain matin, hein, je vous le dis. « Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » Alors ça mérite explication dans ce texte. Vous avez remarqué la convoitise de la consommation. Ah, est-ce que ce n'est pas un problème de notre société d'aujourd'hui? Ouais. On nous dit que c'est la crise. C'est vrai, je veux bien croire. Mais allez faire un petit tour à un supermarché, par exemple, et voyez des, comme par le passé, des chariots qui sortent pleins, etc. Je veux pas dire que tout le monde a la possibilité, mais quand même. Quand on voit la publicité qui est faite, qui nous est donnée par les médias, on est complètement là, submergé de ceci et cela, et les gens continuent à acheter. Donc, moi je me dis, dans certains cadres, je me dis, c'est pas encore tout à fait la crise. Il y en a qui pourraient parler de la crise, quand ils ne trouvent plus rien dans les magasins, quand ils n'ont plus d'argent pour acheter. Alors je veux pas dire qu'il y a différentes catégories, différentes situations sociales, ça c'est vrai, c'est vrai. Mais quelquefois, je me dis que Israël, lui, finalement, n'avait qu'en vue, non plus la misère qu'ils avaient connue en Égypte parce qu'ils étaient battus, ils étaient traités comme des chiens, ils avaient véritablement une misère noire, on peut dire. Mais quand ils sont sortis, en marchant par la foi, en suivant Moïse dans le désert, ils ne voyaient plus, finalement, leur misère d'avant, ils voyaient ce qu'ils avaient perdu. Ils avaient perdu leurs légumes. Non, mais franchement, non, mais c'est vrai, parce que c'est l'énumération qui est faite. Nous mangions ceci, nous mangions ceci, puis maintenant nous ne pouvons pas. Mais écoutez, est-ce que vous croyez que la satisfaction, elle passe uniquement par l'estomac et le ventre? C'est vrai que quand on a faim, c'est pas drôle. C'est certain. Mais notre vie, elle n'est pas faite que du boire et du manger. Notre vie, elle n'est pas faite uniquement que des choses matérielles, des choses consommables, parce que à ce rythme-là et à ce tarif-là, on aura encore toujours, et jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours faim. Puisque nous avons été faits pour cela, finalement. Pour nous substanter. Alors ils pleuraient. Ils étaient profondément malheureux, et ils se mettent à dire, mais nous nous souvenons des poissons. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le désert, le poisson frais, c'est peut-être un petit peu différent. Eh oui, c'était autre chose. Nous nous souvenons des poissons, et qui nous coûtaient rien en plus. Et vous rendez compte? Mais ils avaient oublié que pour manger comme ils mangeaient, ils travaillaient comme des bêtes de somme. Ils étaient battus pour avoir ça, une misérable nourriture. Nous avions ceci. Maintenant, diront-ils, dans leur insatisfaction et leur murmure, notre âme est desséchée. Mais notre âme, elle ne vit pas seulement avec du pain seulement. Notre âme, elle vit avec des choses qui sont d'une autre valeur, dans une autre condition, dans une autre dimension finalement. Et lorsque vous venez, par exemple, dans une réunion comme ce soir, vous n'êtes pas venu pour que je vous serve un repas. Je ne veux pas vous faire des pâtes à la bolognaise, ou je ne sais quoi, ce qui vous aimait bien, je ne sais pas. Mais moi, je vais vous donner la parole de Dieu parce que c'est ce que votre âme a besoin, n'est-ce pas? Moi, mon travail, je suis cuisinier. Eh oui, ça se voit pas comme ça. J'ai pas la toque. Mais nous partageons la parole de Dieu parce que elle substante nos âmes. Elle nous parle de vérité, elle nous parle de paix, elle nous parle de délivrance, elle nous parle de justice, elle nous parle de vie et de vie éternelle également. C'est bien pour ça que vous êtes venus, vous allez être déçus, parce que j'ai pas mis les assiettes, j'ai pas mis le couvert. Mais toujours est-il que c'est ça un peu la situation qui se présentait. Ils diront, mais notre âme est desséchée, plus rien. Et nos yeux ne voient que la manne. Je vais vous expliquer pour ceux qui nous rejoignent ce que pouvait être la manne. Ah, c'était pas n'importe quoi, La manne, c'était quelque chose de particulier parce que c'était un miracle quotidien que Dieu leur envoyait tous les jours parce qu'ils étaient dans un désert horrible, un désert affreux, et Dieu leur envoyait cette manne qui correspondait à ces petites graines qui ressemblaient à des graines de coriandre dont ils pouvaient faire le pain. C'était le pain qui est descendu du ciel. Comme cela nous est dit dans l'Évangile, parce que Jésus se compara, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils ont été nourris pendant combien? Quelques mois, quelques semaines? Pendant 40 ans. Et ils ne voulaient plus, ils étaient dégoûtés, finalement, de la bénédiction de Dieu, de ce renouvellement miraculeux que Dieu leur donnait constamment, ils n'en voulaient plus. Est-ce que nous sommes dans un état d'esprit où nous ne voulons plus de la grâce de Dieu et de la bénédiction de Dieu dans nos vies? Ça peut arriver, Mais c'est grave. C'est grave. Alors, cette convoitise de la consommation, du nouveau, du renouvellement, comme on le voit aujourd'hui, les gens ne savent plus se contenter du quotidien, il faut toujours quelque chose qui les émoustille, qui les font avancer. Ne rien voir d'autre que ce que nous avons pas ou ce que nous avons plus, sans regarder à ce qui nous reste. Mais il nous reste encore le principal, parce que le principal, il n'est pas dans les apparences, il est dans l'intérieur. il est au fond de notre cœur, pas dans les apparences. Mais véritablement, notre vie, et Jésus le soulignera par rapport aux inquiétudes, il dira « Mais moi je voudrais vous dire que votre corps est plus que la nourriture qu'entretient votre corps, que finalement, eh bien, le vêtement est plus que la vie est plus que le vêtement que vous portez. Hein. » Mais nous sommes dans un siècle de consommation et d'insatisfaction. Et les gens tombent vraiment malades, puisqu'aujourd'hui, on parle d'addiction d'acheter. Il y a des gens qui sont malades, ils ne peuvent pas. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils vont dans un magasin, et puis ils sont obligés d'acheter, parce que ça leur donne un contentement des vêtements ou autre chose qu'ils ne porteront jamais. Il y a eu des reportages comme ça à la télévision, il y a des gens qui ont 200 paires de chaussures dans un placard, mais quand vous avez que deux pieds, qu'est-ce que vous faites? L'insatisfaction, le murmure, on n'est pas content de ceci, on n'est pas content de ça. On va tourner une page et on va aller au chapitre 12. Je vous ai dit qu'il y en avait 7, hein, murmure. Alors, là, ça prend une autre signification. Chapitre 12, versets 1 et 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. Aaron et Marie, c'étaient les frères de Moïse, frères et sœurs de Moïse, parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Alors ils se sont mis à murmurer. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Ah, vous savez que Dieu entend tout. Parce que murmure, ça veut dire parler à l'oreille, parler tout doucement. Mais si les autres n'entendent pas nos semblables, même quand on parle tout doucement, l'Éternel, lui, il n'est pas sourd. Hein. Il entend. Parce que non seulement il entend ce que l'on dit, mais il voit les dispositions et les mobiles dans notre cœur qui nous font parler. Et si c'est l'amertume, c'est pas forcément très bon. Alors qu'est-ce que c'est que « ils parlèrent contre Moïse » Ça s'appelle comment ça? Vous connaissez le mot critique? Oui? Mauvaise langue. Vous connaissez ça? On le dit ça, hein, très, très souvent. Il y a des gens qui disent « mais quelle mauvaise langue !» Voilà. C'est pas rien à voir avec une pathologie médicale, hein. C'est pas une langue chargée, hein. Une mauvaise langue. Ouais. Des mauvaises paroles, si vous voulez aller par là, hein. La critique. Où tout est prétexte. Des choses fausses, des choses injustes, tout est prétexte pour dire du mal. Et là, il y a encore quelque chose qui est sous-jacent, qui est le fondement, qui est l'animation, en quelque sorte, de la critique. Vous savez comment ça s'appelle? Je crois que c'est l'un des plus grands fléaux de l'humanité, c'est la jalousie. Ouais, les gens qui sont jaloux. C'est de désirer ce que l'autre a et que nous n'avons pas. Et vous savez, la jalousie, hein, est à l'origine de tous les méfaits, de toutes les choses dramatiques, voire même des meurtres, des crimes qui se sont produits. Ça peut être une jalousie collective quand c'est national, par rapport à un autre peuple. Ça peut être individuel, naturellement. Et de pouvoir convoiter, de pouvoir désirer, quitte à user de la violence, tant en parole qu'en geste, pour s'approprier finalement, eh bien, ce que l'autre a et que je n'ai pas. Alors, ils ont parlé, et qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme prétexte? Parce que c'est intéressant de s'y arrêter quelques instants. Moïse était un juif, ça on s'en doute, pas de problème. Mais, il avait épousé une étrangère, une femme éthiopienne. Elle s'appelait Ah. Séphora. Et vous savez ce que ça veut dire, Séphora? Petit oiseau. C'est gentil. Mais si on parle de sa tête, c'est qu'il y avait... Ben bon, je ne voudrais pas quand même insister dessus. Vous avez compris, non, je ne sais pas. Bon, voilà. Alors, toujours est-il qu'il avait pris cette femme et ça ne plaisait pas au beau-frère et à la belle-sœur. Oh, les histoires de famille. Ça a toujours été. Hein, qu'il avait prise parce qu'il avait pris une femme égyptienne. C'est pas que... Ça les dérangeait quelque part. Mais ça créait quand même un prétexte pour dire, ah, il aurait pu prendre une juive, il aurait pu prendre une femme parmi les Hébreux. Et c'était un prétexte pour parler contre lui. Et vous savez pourquoi on parlait, son frère et sa sœur parlaient contre Moïse? Parce que Moïse avait reçu quelque chose de la part de Dieu et qu'il n'avait pas. Voilà. Et là, c'était plus des choses matérielles, c'était pas une maison, c'était pas ceci et cela. Mais il se servait de ce vil prétexte, parce qu'il s'était marié avec une étrangère pour le critiquer, pour murmurer contre lui, tout simplement. Alors ils vont dire, et vous imaginez un peu la forme que nous pouvons donner à la phrase suivante, Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? Ça voulait dire, mais il se prend pour qui, notre frère Moïse ? Il se prend la tête, là. Hein, il est devenu le prince d'Israël, mais il se prend, et il est quand même notre frère, et puis, voilà, il est tombé sur la tête. Donc, il se servait de toutes ces choses, qui n'étaient pas justes, parce que c'est Dieu qui avait choisi Moïse. Ouais. Puis, c'est pas Moïse qui l'avait choisi, parce que lui, il voulait pas y aller, à faire cette mission. Donc, c'était une obligation de Dieu. Mais, dans la famille, eh bien, il y avait ce climat de murmure, et qui devenait une situation impossible. Alors, l'Éternel l'entendit. Alors, vous savez ce qui s'est passé pour Marie ? Eh oui. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle a tellement critiqué son frère. Elle a tellement dit des choses mauvaises, des choses injustes, des choses qui n'étaient pas bonnes. La critique, la mauvaise langue. Vous savez ce qui lui est arrivé ? Un beau jour, quand elle s'est réveillée avec la lèpre. Ouais. Parce que c'est une lèpre, la critique. C'est l'image, c'est le symbole. La mauvaise langue, c'est une lèpre. Qui ne se voit peut-être pas pour Moïse, pour Marie, ça se voyait à l'extérieur, parce qu'elle avait des taches toutes blanches sur tout le corps. Mais c'est une lèpre de l'âme. C'est une lèpre à l'intérieur de nous-mêmes. Et il nous est dit que Moïse pria pour Marie, et sa peau redevint pure. Encore une fois, hein, vous savez, on a besoin que l'on prie pour les uns et pour les autres. Et quand on voit quelqu'un qui part dans une direction difficile, va prier pour lui. C'est pas la peine de s'affronter, ça ne sert à rien, ça ne fait qu'exciter les querelles. Ça ne fait que monter finalement le mal et donner avantage à l'ennemi qui se sert, lui qui s'appelle le malin, vous comprenez ? Mais si vous priez, vous allez voir et vous comprendrez qu'à un moment donné, eh bien, le combat que vous menez, c'est un combat de nature spirituelle, de nature morale. Et à un moment donné, eh bien, le Seigneur exaucera. Ça, c'est notre rôle, hein. La prière répond à tout, hein. Verset chapitre 14 maintenant. Chapitre 14, on va lire les quatre premiers versets. Verset premier. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, et comme nous sommes-nous morts dans ce désert ? Pourquoi l'Éternel nous a-t-il allé dans ce pays ? Où nous tomberons par l'épée, et nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Et ils se dirent l'un à l'autre, ils ont murmuré, « Nommons un chef, mettons Moïse dehors et retournons en Égypte. » Eh bien ça, c'est de la marche arrière qui n'amène à rien du tout. Et vous avez remarqué que ceux qui murmurent et ceux qui critiquent n'ont pas d'autre argument que ceux qui se sont servis la veille. C'est toujours la même chose. On manque d'oignons, on n'a pas de poisson, on n'a pas ceci, on mange une nourriture qui était infecte, la manne, on ne veut plus en entendre parler. On était mieux avant, on était mieux ceci et cela. Mais il n'y a pas d'imagination, hein, il n'y a pas de développement, au contraire, on se renferme dans une prison où on ressasse finalement le mal. Et quand on ressasse le mal, on le conforte en nous-mêmes. Il devient encore plus fort en nous-mêmes parce qu'on y pense, on y pense, on y pense, on y repense, et finalement, eh bien, on se fait du mal. On est en train de bétonner quelque part notre cœur et notre esprit et nos pensées, et on ne peut plus s'en sortir à ce moment-là. Ça devient une forteresse à l'intérieur de nous-mêmes. Et Dieu frappe à la porte de nos cœurs. Si véritablement il y a de telles dispositions en disant « Mais laisse-moi, moi je vais faire tomber la forteresse de Jéricho qui est à l'intérieur de ton cœur. Arrête avec tes amertumes, arrête avec tes murmures, avec tes critiques, etc. etc. Parce que tu le dis aujourd'hui, mais tu l'as dit déjà il y a des années, et tu continues à le dire, et jusqu'à la fin de ta vie tu diras toujours la même chose. Tu diras toujours qu'il te manque quelque chose. En Égypte, tu n'étais pas content, tu pleurais. Maintenant que tu es libéré, maintenant que tu es un peuple libre, tu pleures encore. Qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est terrible ça. Hein ? Il y a des gens qui sont comme ça. Hein ? Terrible. Mais Dieu ne veut pas nous laisser comme ça. Et il ne veut pas que les gens soient comme ça. Il veut leur montrer qu'il y a une libération à l'intérieur de nous-mêmes, qu'il y a une liberté, qu'il y a le grand air, qu'il y a de l'oxygène, et qu'on peut vivre autrement. Sans se persécuter soi-même, sans se rendre malade soi-même, et aussi, surtout, rendre les autres malades qui vivent autour de nous. C'est une autre affaire. Alors, ils sont pris par un problème de dépit et de déception, quand les choses ne se passent pas comme eux, ils avaient espéré. Et chez un enfant, vous savez, on appelle ça comment ? On appelle ça des caprices, des enfantillages. Mais il peut y avoir des adultes qui sont encore dans ce contexte d'enfantillage. Toujours chercher, comme on dit, la petite bête. Ouais. Toujours chercher le quelque chose, la rancœur. Alors, on tombe dans des jérémiades et on s'en sort pas. Et Dieu veut changer la nature des choses. Il nous dit, mais tu as besoin de guérison à l'intérieur. Tu ne sais pas que tu es malade, mais tu pourrais vivre plus heureux. Tu pourrais vivre libéré, au lieu de te mettre en colère et de t'irriter contre tout, contre n'importe quoi. Mais moi, je suis venu pour te guérir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, nous dit Jésus, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ça, c'est bien les textes de l'Évangile, n'est-ce pas? Vous les connaissez. Alors, on va aller encore un peu plus loin. On va passer, ils murmurèrent donc contre Moïse et Aaron. Ils ont pleuré toute une nuit, mais ils pouvaient pleurer toute la vie, hein. S'ils n'avaient pas compris finalement qu'il pouvait y avoir une délivrance possible de la part de Dieu. Chapitre 16, les trois premiers versets. Corée, fils de Jitsear, fils de Kehat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pelet, tous trois fils de Rubens, qui était un patriarche dans l'histoire de la nation d'Israël. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel ?» Alors, on a là quelque chose, un phénomène particulier. Ça commence par un murmure, par un bruit sourd, et ça finit par une explosion gigantesque. À un moment ou à un autre, ça ne reste pas, ça éclate. Et ça fait beaucoup de dégâts, ça fait comme une bombe, vous comprenez? Ce qui est renfermé, le feu comme un volcan qui est au fond des cœurs. Alors à ce moment-là, eh bien, il nous est parlé de ces trois personnages qui étaient des grands personnages d'Israël. C'étaient des princes d'Israël qui se sont révoltés contre Moïse. Et il nous est dit que c'était pas les moindres, c'était des gens de renom, vous l'avez vu avec moi. Oui. Qui étaient convoqués aux assemblées, c'était pas n'importe qui, c'était pas le peuple, mais c'était des gens qui étaient en quelque sorte dans un statut privilégié. Et nous nous apercevons que la révolte, les murmures, la révolte, la rébellion va devenir contagieuse. Puisque à un moment donné, il nous est dit qu'ils avaient réussi à entraîner 250 hommes des enfants d'Israël pour se révolter. Imaginez-vous, c'était quelque chose, hein, pire que les bonnets rouges en Bretagne. Hein. Je dis ça parce que c'est d'actualité. Mais imaginez-vous, hein, des murmures à la révolte contagieuse, des privilèges qu'ils ont et dont ils sont ignorants que c'est finalement leur bonheur, mais ça fait un peu l'histoire du fils prodigue, vous comprenez? Ah oui, donne-moi la part de bien qui me revient et puis moi je vais aller vivre ailleurs parce que c'est mieux ailleurs qu'à la maison, vous comprenez? Quand on finit par mépriser tout ce que Dieu nous a donné, ne méprisez pas, ne méprisez jamais rien. Ne méprisez pas les faibles commencements parce qu'avec les faibles commencements, eh bien Dieu est capable de nous donner véritablement quelque chose d'extraordinaire. C'est le principe de la petite graine de sénové qui va pousser et qui va devenir énorme. Mais on ne sait pas toujours le bonheur que l'on a. Principaux, des gens de renom, etc., qui se sont révoltés. Chapitre 20 maintenant, parce que je vais bientôt terminer. Alors on va tourner quelques pages de notre livre. Chapitre 20, verset 3-5, il nous est dit ces paroles. « Le peuple chercha querelle à Moïse et ils dirent, qu'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel ? Pourquoi avons-nous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce lieu méchant ou sans le méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni eau à boire. » Alors là, on était passé des légumes aux fruits. Je ne sais pas où on va arriver. Hein. On avait parlé du poisson. Ouais, mais tout est bon. Tout est mauvais. Voilà, tout est bon pour que ça soit mauvais. C'est ça, je rectifie, je me rattrape. Comprenez? Eh oui. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle le murmure, ça s'appelle l'amertume, ça s'appelle l'insatisfaction. Parce qu'ils ont éprouvé le manque. Eh oui. Quand on a et qu'on n'a plus, ça fait un drôle d'effet, hein. Quand on n'a pas et qu'on n'a jamais eu, bah, on vit avec, hein, on vit sans, plutôt, hein. Mais là, ils avaient eu beaucoup. Ils avaient vu vraiment la grâce de Dieu tous les jours. La manne, la bénédiction de Dieu qui descendait pour les nourrir. L'eau qui coulait du rocher le plus dur. Parce que Dieu leur donnait l'eau du rocher dans un désert où il n'y avait rien du tout. Dieu leur donnait finalement eh bien, tout ce dont ils avaient besoin. Même dans le livre de Deutéronome, il nous est dit que même leurs vêtements ne s'usaient point. Dites donc quelle économie on ferait, hein. Mesdames, vous rendez compte? Plus de magasins, de mode, rien du tout, et garder 40 ans la même robe? Imaginez! Quelle économie! Ah oui. Ben, ça, c'était le miracle de Dieu, hein. Bon, c'est dans un contexte particulier, mais pour nous dire que quand Dieu bénit, eh bien, il bénit. Il bénit durablement. Et ce qu'il nous donne, c'est pas la moindre qualité, c'est toujours le nec plus ultra. Voilà. Et ça, c'était la condition d'Israël qui avait le meilleur dans des conditions qui étaient pourtant terribles autour. Mais Dieu avait conduit son peuple dans ces conditions. Alors, c'était l'épreuve du manque qui va aigrir les esprits, qui va les amener finalement à se révolter et qui va générer dans leur cœur de mauvais sentiments, de mauvaises dispositions. Et l'irritation est malsaine, puisqu'il nous est dit dans le mot, dans le texte, ils cherchèrent querelle. Ah ouais. Quand on peut pas atteindre Dieu, on atteint les hommes. Hein. On les fait comme responsables. Eh oui. Vous savez, quand Jésus était crucifié, hein, bah les Juifs, ils n'ont pas vu que c'était Dieu, hein, qu'ils étaient en train de crucifier en quelque sorte. Hein. Et ils se sont dit, bien, nous, on va lui ôter la vie, comme ça on sera tranquille. Ouais. C'était une révolte contre Dieu, en quelque sorte. Alors, les accusations, on a fait de Aaron et de Moïse des boucs émissaires. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est biblique, le mot bouc émissaire. Il y a toute une histoire dans la Bible que vous pourrez retourner, je crois, dans le livre des Lévitiques. Vous le retrouverez, hein? C'est celui qui paie pour les autres. C'est celui qui est innocent, c'est celui qui n'a rien fait et qui va payer pour les autres. Et c'est ce que Jésus a fait, hein, en quelque sorte. Trouver un responsable à lyncher. Il nous est dit qu'il lui cherchait querelle. Et puis, je termine à travers le verset chapitre 21, où il nous est donné, donc au verset 5, verset chapitre 21, verset 5, hein, il nous est dit qu'à un moment donné, le peuple s'impatienta en route, et il parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avait fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, c'est pas vrai, il y avait la manne, il n'y a point d'eau, c'est pas vrai, parce que Dieu faisait couler l'eau dans le désert, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ah, c'est terrible. C'est terrible, hein, ces impatiences. Parce que le gros problème ici, c'est l'impatience. C'est qu'on veut avoir tout, tout de suite. C'est vrai que on est dans une société ultra rapide. Hein. Prenez le train, par exemple. On a pourtant des TGV, mais quand ils arrivent à l'heure. Enfin, je suis pas en train de... Vous prenez l'avion quand il décolle. Enfin, bon. Mais on est impatient de tout, hein. Parce qu'on est dans une société de presse-bouton. Voilà. Tout est automatique. Vous pressez, vous mettez une pièce, vous avez, hop, ça tombe, etc., etc. Mais c'est terrible. Vous savez, on ne sait pas ce que l'on a, hein, parce qu'on peut toujours critiquer l'administration, etc., etc. Mais allez dans certains pays. Et vous allez voir ce que c'est que l'administration. Vous allez voir. C'est pas triste. Non, mais c'est une expérience, hein. Vous prenez vos vacances, là, vous allez voir quelque part, et puis essayez de faire quelques démarches, vous allez voir un petit peu. C'est quelquefois, c'est des jours, hein, avant d'avoir quelque chose. Hein. Parce que vous avez quelquefois derrière le guichet des gens qui... Bon, il fait chaud, hein. Il faut faire la sieste. Bon. Et pendant que vous avez un besoin urgent, alors à ce moment-là, ben vous attendez, c'est tout. Il faut prendre son mal en patience. Mais c'est pour ça qu'il y a un rythme différent. Nous, nos pays occidentaux, on est speed. Hein. Mais on est peut-être un peu malade aussi, quelque part. Hein. On est peut-être un peu fou, hein, par notre vitesse. Hein. Parce que ça nous tue, la vitesse. Hein. Voilà, on voit pas le paysage, hein. Ça c'est sûr, ça va trop vite. Hein. Mais dans certains pays, c'est plutôt autre chose. Alors, l'impatience en route. Et oui, nous sommes dans la vie et nous sommes en route. Nous sommes en route vers quel but, d'abord? Vous savez où nous allons? Eh bien, pour un chrétien, lui, il va vers le ciel. Pour ceux qui ne croient pas, ils vont vers la terre, ils vont dans la terre. Mais nous, nous allons dans le ciel, même si on dépose notre dépouille, notre enveloppe corporelle, mortelle. En tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se développer. C'est notre âme et notre esprit, qui sont éternels. Alors, ils se sont impatientés en route. Et voilà qu'ils se sont donné des pourquoi leur rébellion. Nous sommes dégoûtés de la bénédiction de Dieu. Dégoûtés de quoi? Et ils avaient tout simplement oublié, eh bien, la bonté et la grâce de Dieu. Alors, quand on est dans cette condition des sept murmures d'Israël, permettez-moi, et je termine maintenant, et qu'on se maintient, on ouvre la boîte de Pandore. Vous savez ce que c'est, ça? C'est de la mythologie, hein, boîte de Pandore. C'est la boîte qui ouvre tous les maux et à toutes les situations épouvantables de souffrance et de malheur dans l'existence des hommes. C'est ça la boîte de Pandore. On l'ouvre. Et vous savez, notre monde, il est un peu comme ça. Hein. Un monde de murmures, un monde de rébellion, un monde de mécontentement, un monde de satisfaction. Mais regardez autour de nous. Vous croyez qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de difficulté, qu'il n'y a pas des crises, qu'il n'y a pas de dépression, qu'il n'y a pas d'angoisse, qu'il n'y a pas d'énervement, qu'il n'y a pas de toutes sortes de choses qui sont générées par cela. Mais on a ouvert la boîte de Pandore, finalement. Tout simplement. Alors, on va lire un dernier texte dans Corinthiens. Et nous allons donc prendre ce passage. Et ça sera notre conclusion parce que vous allez voir, je pense que ce qui est dit, c'est tout à fait pertinent dans la leçon que nous voulons tirer pour conclure notre méditation. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 et verset 5, il est dit ceci, ou je veux peut-être lire même le texte, on va le reprendre. Paul dit ceci, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, donc la bénédiction de Dieu, qu'ils ont tous passé à travers la mer, le miracle de Dieu pour les affranchir de l'esclavage, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, par la puissance de Dieu. Ils l'ont vu, c'était des miracles, ils ont vécu le miracle, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu au même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Avant que Christ apparaisse sur la terre, eh bien il était déjà au milieu du peuple, et le peuple qui ne s'en apercevait pas était un peuple qui murmurait. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ah ! Et ils périrent à cause de quoi ? C'est qu'ils ne faisaient pas confiance. Ils n'avaient pas la foi. Pourtant, ils avaient été préparés avec des miracles extraordinaires et formidables. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, à nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Et les mauvais désirs, c'est la convoitise, c'est l'impatience, c'est tout ce que nous avons cité il y a quelques instants. Hein, la révolte, le murmure et tout ce que vous voulez. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir, pour se corrompre. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Quelque chose de catastrophique. Quand je vous dis que la boîte de Pandore a été ouverte, c'est vrai, hein. Ne tentons point le Seigneur comme ils le tentèrent, comme tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous connaissez l'histoire. Chapitre 22 du livre des Nombres. Vous lirez ça, vous verrez, c'est très instructif. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses, ça fait deux fois que ça nous est dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, ce que nous lisons précisément, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et on tombe par l'insatisfaction, par le murmure, le mécontentement. Et il nous est dit en conclusion, sachez une chose, c'est qu'aucune tentation, aucune épreuve, aucune tribulation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, au-delà de nos forces. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Ça, c'est la conclusion. Imaginez-vous. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui rend Dieu ? Qu'est-ce qui nous rend agréable à Dieu ? C'est tout simplement notre foi, notre flexibilité, notre docilité. Et au lieu de voir toujours le mauvais côté, de dire, eh bien Seigneur, je suis dans une épreuve. Mais je ne suis pas tout seul dans l'épreuve. Tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me secours et tu me bénis. Eh bien, quand on dit ça, c'est qu'on fait confiance au Seigneur et on attend sa délivrance et elle ne manquera pas. Parce que plus on sera souple et plus on sera obéissant, plus la délivrance viendra rapidement. Le problème, c'est qu'on laisse tarder les choses et c'est que nous sommes en train de remuer comme des petits poissons là au bout de l'hameçon et que finalement, eh bien, nous nous faisons du mal à nous-mêmes si nous faisons du mal aux autres. Mais Dieu attend que nous nous calmions et sans murmurer, tout simplement. Il y a ces exemples préventifs. Cela nous sert finalement, pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles. Puis vous avez remarqué avec moi, le verset 7 nous dit de ne pas être des idolâtres, idolâtres de ceci, idolâtres de cela, naturellement, idolâtres de nous-mêmes, peut-être, de nos besoins d'avoir, de posséder, parce que l'idolâtrie amène tout de suite à l'impudicité et à la révolte à des choses qui sont absolument pas dans la pensée de Dieu et qui sont contraires. C'est pourquoi il nous dit, ne laissez pas de racines d'amertume. et ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Les Hébreux se sont privés de la grâce de Dieu. Ils ont tourné en rond pendant 40 ans dans le désert. Ils se sont privés de cette grâce parce qu'il y avait ces mauvais sentiments et ces mauvaises dispositions. Et vous avez ce texte que nous connaissons bien. Hein. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune que nous puissions passer. Hein. Si Dieu permet la tentation, s'il permet l'épreuve, c'est qu'il sait que nous sommes capables de la supporter. Et il nous donnera les moyens de la supporter. Et les Hébreux sont passés par la tentation dans le désert, mais ils ne l'ont pas supportée. Ils se sont mis à critiquer, à murmurer, à geindre, à pleurer, à faire toutes sortes de choses. Ils ont passé la moitié de leur vie, finalement, à tourner en rond, hein, tout simplement. Parce que l'épreuve de notre foi se mesure par l'épreuve. Je dis bien l'épreuve de la véracité de notre foi, la solidité de notre foi se mesure par les épreuves. Test de confiance en Dieu, et je voudrais vous dire, comme il est dit à un moment donné, c'est que Dieu trouvera toujours le moyen de nous en sortir, si nous voulons nous laisser faire, si nous voulons l'écouter, si nous voulons prendre cette leçon que nous avons entendue ce soir, car Dieu secourt toujours, et nous avons lu tout à l'heure, fait toute chose pour la gloire de Dieu, et fait toute chose sans murmure ni hésitation. Qu'est-ce que nous pourrions être beaucoup plus heureux si nous avions à écouter la parole? Et que nous disions ce soir au Seigneur, devant nos irritations, nos colères, ça vous arrive peut-être hein, quelquefois, hein, oui, il y a des mots qui expriment vraiment, disjonctés, on peut dire ça d'une manière très aimable, mais ça peut arriver à chacun d'entre nous, mais si on laisse le faire, c'est le Seigneur, et de dire, mais Seigneur, change-moi dans mon tempérament, je suis soupe au lait, vous savez ce que ça fait, ça déborde, hein. Je suis irascible. Je suis fatigué. Quand je suis fatigué, faut pas trop venir me, hein? Voilà. J'ai des problèmes. Oui, mais tout le monde a des problèmes. Et on n'est pas obligé de faire sentir nos problèmes aux autres. Seigneur, change-moi. Regardez, quand vous avez l'exemple de Jésus, Jésus était calme. Jésus ne s'est jamais précipité. Jésus a toujours eu un comportement d'équilibre. Mais c'est à cela que nous sommes appelés. Si nous disons que nous sommes chrétiens, nous portons le nom de chrétien, mais nous devons avoir le caractère de chrétien. Ça, c'est important, naturellement. Alors, si Dieu est pour nous, mais qui sera contre nous? Eh oui, si Dieu est pour nous, alors nous voulons résolument nous mettre du côté du Seigneur, non pas en parole, en disant « Seigneur, Seigneur, je t'aime, je te bénis, etc., je te donne des belles prières !» Mais c'est pas seulement ça, c'est de le vivre au fond de nous-mêmes. Et ça s'appelle, tout simplement, naître de nouveau, une nouvelle naissance, repentance, peut-être de ces problèmes de murmures, d'impatience, de critiques, repentance, Seigneur nous pardonne, si nous sommes sincères. Cherchez Jésus, ça s'appelle tout simplement se convertir à Jésus, être comme lui il a vécu, comme il a aimé, comme il a parlé, comme il a marché sur cette terre. Et puis il y a vraiment cette bénédiction de Dieu que l'on appelle cette vie nouvelle qui vient à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous fera reconnaître comme des gens qui sont différents des autres, non pas parce que nous avons quelque chose de particulier, en plus, mais c'est parce que Christ vit en nous. Et si Christ vit en nous, nous porterons son image et nous pourrons rendre un témoignage d'excellence autour de nous. Et les gens qui nous ont connus peut-être sous un autre aspect, et comme nous l'avons souvent entendu, et Dieu soit béni pour cela, à partir du moment où ils ont fait toutes ces expériences, qu'ils ont demandé à Dieu de venir les aider, on dira « Ah, nous l'avons connu, cet homme, cette femme. » Mais il était irascible, il était intempérant, c'était un colérique, c'était un homme qui se mettait en colère pour un oui, pour un non. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. C'est une personne nouvelle. C'était quelqu'un qui a été complètement transformé. Et là, je peux vous dire que ça incline le respect et ça amène les gens qui vous voient vivre maintenant de dire « mais il vit véritablement comme un chrétien, il a la foi et il aime Dieu. Que Dieu nous bénisse ce soir. » Que Dieu nous donne sa grâce. Alors, on va se recueillir quelques instants, on va demander au Seigneur qu'il fasse cette œuvre dans nos cœurs, dans nos âmes, au plus profond de nous-mêmes, et il veut le faire afin que nous ne nous privions point de la grâce de Dieu, de la bénédiction de notre vie. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, et puis nous pouvons dire que si nous avons parlé dans l'intimité de cette réunion ce soir, de ce que nous sommes les uns et les autres réunis, en écoutant ta parole, nous voulons véritablement penser, Seigneur, que que tu es celui qui a la réponse à tous nos problèmes. Et quelquefois, combien de maux, combien de peines, combien de souffrances nous nous sommes infligés à nous-mêmes et que nous avons aussi obligé les autres à recevoir. En effet, Père éternel, parce que nous n'étions peut-être pas malades corporellement dans notre être physique, mais Seigneur, si tu nous as appelés, et si ce soir nous avons entendu cette parole, si lorsque nous lisons la Bible, nous tombons sur ce genre de sujet, eh bien c'est que peut-être il y a des besoins où nous avons eh bien vraiment besoin de te demander ton secours, de te demander ton aide, et de te dire, Seigneur, aide-moi à changer de l'intérieur. Aide-moi à être un homme, une femme, avec cette douceur qui est en Jésus-Christ, avec bonté, avec, Seigneur, en ayant dans ma bouche des paroles qui font du bien, qui édifient, qui bénissent, et non pas le contraire. Seigneur, dans le nom de Jésus, si nous prenons conscience, Seigneur, de tout cela, et que nous te demandons véritablement ton aide, mais tu vas le faire, puisque le plus grand désir, ce qui t'est agréable, c'est que nous puissions te ressembler, et vivre en chrétien, non pas avec un nom, mais vraiment l'être profondément, Seigneur, au plus dans notre âme, au plus profond de nous-mêmes. Seigneur, dans le nom de Jésus, délivre-moi de ces péchés que sont les choses que nous avons évoquées ce soir, le mal, exploité souvent par le malin. Oui, Seigneur, parce que ce sont des péchés. Et ça, Seigneur, nous n'en prenons pas souvent conscience, parce que pour nous ou pour les hommes, souvent le péché, ce sont des grosses choses, des choses grossières, des choses vulgaires. Mais le péché, il se cache quelquefois dans le tréfonds de notre cœur et de notre âme, à travers toutes ces choses qui nous paraissent quelquefois insignifiantes et banales, mais qui sont véritablement, eh bien, la cause de grands dommages, de grands drames, de grandes souffrances et de grandes peines. Seigneur Jésus, nous te remercions de nous avoir invités à venir à toi, parce que nous sommes chargés, nous sommes en effet fatigués de toutes ces choses, et je sais que tu nous donneras le repos qui nous est nécessaire. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.